Bonjour frères et sœurs. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin pour cette dernière session qu'on va faire ensemble. Vous savez, quand on parle de choses spirituelles, des mondes de ténèbres, les malins s'élèvent toujours parce qu'on va dévoiler ses secrets. Mais nous croyons que le Seigneur est là et sa présence est là aussi et son esprit nous éclaire et le sang de Jésus-Christ nous couvre. Nous n'avons pas peur du tout parce que le Christ est là, il est avec nous. On va lire un verset avant de continuer de prendre le temps de prière par rapport à ce qu'on a chanté. On peut prendre nos Bibles pour lire Luc chapitre 8. Pourquoi on est là ce matin? Luc chapitre 8, verset 16. Luc 8, verset 16, c'est un texte qui peut nous amener à faire une grande étude biblique, mais on va juste lire ça, dire deux, trois choses sur ce texte-là. Luc chapitre 8, verset 16. Je fais la lecture du texte. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière et tout ce qui demeure secret finalement connu et paraîtra au grand jour. Verset 18, faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Personne n'allume la lampe pour le poser sous un bureau, sous une table, sous un lit. La lampe est allumée, on la place sur une table pour éclairer la pièce. En fait, que ceux qui entrent dans la pièce, qu'ils soient éclairés, qu'ils voient la lumière. Nous sommes des lampes que Jésus a allumées. Nous sommes des lampes que Jésus a allumées, nous sommes des lampes. Et il a allumé ces lampes-là pour qu'on éclaire la pièce. Mais quelle pièce? De quel endroit? Or, la lampe, on la porte à différents endroits. Or, qui porte la lampe? C'est le Christ par le Saint-Esprit. Il porte la lampe là où il veut. Il nous porte au travail, il nous porte dans nos familles, il nous porte dans le quartier, et cette lampe, il la pose sur un endroit visible. Nous sommes cette lampe qui ne doit pas être cachée. Cette lampe qui doit être posée sur un endroit pour qu'ils puissent voir. Les gens vont voir cette lumière que la lampe va projeter. Prenez conscience de cette vérité. Nous sommes, tu es une lampe. Tu dois éclairer la pièce. Ce n'est pas que ta maison, ce n'est pas que le travail. C'est peut-être partout Jésus va t'apporter. Il va te mener partout. Il va te mener partout comme il veut. Il va porter la lampe. L'église ne portera pas la lampe. Ni ta famille. C'est le Christ qui porte ta lampe, il la mène là où il veut. Quand on voit les apôtres, Jésus les envoyait là où il voulait pour qu'ils aient porté cette lumière-là. Il y a un homme qui était tout seul, il s'appelle Philippe. C'est une lampe qui est partie éclairer tout l'endroit, c'était la Samarie. Il était tout seul. Il est arrivé à Samarie, il a bouleversé Samarie. Il a apporté la lumière. Tu es une lampe. Cette vérité est fondamentale. Ne va pas là où toi tu veux. Laisse-toi guider par le Seigneur. Tu vas éclairer ce que Dieu veut qu'il soit éclairé. Tu es une lampe. Donc, il faut toujours éclairer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura sa lumière, il va éclairer le monde. Tu es une lumière, comme le Christ. Tu vas éclairer les gens. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui encore, c'est la parole de Dieu, tu vas éclairer d'autres qui ne connaissent pas. Nous devons éclairer. Ce monde est dans le ténèbre, vraiment. Lève-toi et laisse-toi guider par Dieu pour éclairer ceux qui sont avec toi. Amen. Nous sommes une lampe. Tu es une lampe particulière. Ce n'est pas nous qui l'avons allumée. C'est Christ qui l'a allumée à la conversion. Il a allumé la lampe. Alors reste éclairé. Reste éclairé. Et cette vérité, c'est qu'il y a le ténèbre. Il y a le ténèbre qui est terrible. Il y a réellement le ténèbre dans le cœur des gens. Et tu vas les éclairer. N'oublie pas, tu vas éclairer les gens. Du coup, pendant ce temps de session que nous avons, sois disponible à écouter pour comprendre comment je vais faire pour éclairer les autres. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole que nous sommes tous une lampe que tu as allumée par la grâce. Nous ne nous sommes pas allumés nous-mêmes, mais c'est toi qui as allumé cette lampe pour éclairer les nations, les familles, les pièces, l'endroit où tu vas nous déposer toi-même. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à comprendre ta parole pour aller encore éclairer les différentes pièces là où tu vas nous poser. Tu nous appelles à ne pas nous cacher, mais à nous laisser guider par toi, pour que les nations et les hommes et les femmes puissent t'écouter et être bénis. Merci pour ce temps, Seigneur. Glorifie ton nom et glorifie ta parole. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être là. C'est encourageant pour moi de vous voir aujourd'hui, présent ici. Samedi matin, c'est un peu difficile parce qu'on passe une semaine compliquée. On voudrait même se reposer les samedis, se reposer un peu, prendre du croissant chaud avec du café chaud le matin, hein, être encore sous sa couette encore. Mais de fait, vous déplacer. Merci Seigneur pour la force qu'il vous a donnée de venir ici, pour pouvoir passer ce temps ensemble et réfléchir un peu sur tout ce qui se passe au niveau dans ce monde spirituel. Alors, on aura trois temps, on aura des petits courts temps. On aura d'abord, cette première partie, un adversaire très actif, c'est le diable. On ne va pas parler beaucoup plus de lui parce qu'il est tellement complexe. On ne fait pas un séminaire sur lui, parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui. On prendra juste une partie. Et puis on parlera aussi de l'Église qui est une armée puissante. Il y a des soldats qui sont là, qui servent le Seigneur. À la fin, on parlera de la délivrance de manière pratique. Comment ça se passe la délivrance? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Et comment se préparer pour la délivrance? Voilà, on commence par ce thème-là, un adversaire très actif. Et j'ai mis là-bas jusqu'à la fin des temps. Il y a un temps pour l'adversaire. Il y a un temps pour lui. Et Satan le sait bien. Il sait très bien que les choses sont sous le contrôle du Seigneur. Je veux que nous suivions ces versets-là. Il y a deux versets qui sont devant. Et voici, il s'est mis à crier, dans Luc aussi, « Que veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Que veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Deuxième verset, « Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint, l'envoyé par Dieu. » Que veux-tu, fils de Dieu? Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps ou tu es venu pour nous détruire? Tourmenter et détruire. Et Jésus arrive à Nazareth pour la première fois. Il est dans la synagogue, il va proclamer la parole du Seigneur. Alors, il arrive à Capernaum, dans cette maison, le verset qu'on a lu la dernière fois. Il y avait un homme qui était là dans la synagogue, qui était possédé. Et les démons parlent à travers lui. Es-tu venu pour nous détruire? Jésus va le faire taire, il va chasser l'esprit mauvais. Dans notre verset aussi, dans Marc, il dit aussi, vient ce verset-là aussi, tu es le Fils de Dieu, nous te connaissons. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Je l'ai dit la dernière fois, depuis l'époque d'Abraham, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, le diable était calme. Il faisait ce qu'il voulait, personne ne le tourmentait. Lisez la Bible, regardez les textes. Aucun prophète n'a pu le tourmenter. Aucun roi n'a pu le tourmenter. Aucun juge n'a pu le tourmenter. Les démons agissaient comme ils voulaient. Quelle liberté qu'ils avaient. C'est là où ça m'a fait un peu en moi un sentiment de révolte. Comment cet esprit dangereux peut mouvoir dans le monde, faire ce qu'il veut? Mais pourquoi Dieu l'a laissé comme ça pendant tout ce temps? Je n'ai pas de réponse. J'étais triste pendant que je pensais à ce texte-là. Mais c'est pourquoi tu n'as pas pu arrêter ça depuis longtemps? Et tu l'as laissé pendant des siècles et détruit beaucoup de personnes. Dieu se le sait. Regardez Genèse, jusqu'à fin Malachie. Tout ce temps-là, Satan travaillait. Il agissait. Bien sûr, il y avait des prophéties qui viendront, où quelqu'un viendra, va libérer les peuples. Bien sûr, il y a les prophéties depuis Genèse 3, qu'on va voir aussi. À travers aussi Jacob. Jacob a parlé encore de Jésus aussi. Il y a eu tout ça, mais que des prophéties. Mais l'action viendra après que Jésus soit né. C'est terrible. Quelle liberté qu'ils avaient ces démons. De faire des choses horribles. le Seigneur laisser faire des choses? Je ne sais pas. Il y a des questions qu'on n'a pas de réponses. On n'a pas de réponses. Pourquoi Dieu a laissé tout ce temps où le malin détruisait des familles et des personnes? La première fois, un homme qui tue son frère, Caïn. Et Dieu voit que le mal est entré déjà là-bas. Mais il laisse les choses. C'est un mystère que nous ne comprendrons jamais. Pourquoi cela? Pourquoi? Mais quand Jésus arrive, le monde des ténèbres est réveillé. Quelqu'un est arrivé. Celui-là, il va mettre fin à tout ce système-là. Il va le dépouiller, il va le vaincre. Les démons disent deux choses. Ils disent, la première chose qu'ils disent, il y a la question du temps, qu'ils savent eux, et puis la question de la destruction. Prenons cette partie du premier verset. Tu veux nous tourmenter avant le temps. En fait, depuis Genèse jusqu'à Malachi, les démons n'étaient pas tourmentés. Ils étaient bien. Mais Jésus arrive, il va les tourmenter. Le chrétien tourmente les démons. Amen. Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Nous sommes dans la continuité de l'œuvre du Seigneur. Si le Christ qui est arrivé, il va tourmenter les forces du mal, nous de même, on va les tourmenter. On ne va pas les laisser tranquilles. On ne va pas les laisser tranquilles. Et puis il dit, tu es venu pour nous détruire. Nous sommes là pour détruire les œuvres de ténèbres. Jésus va le faire. Et à la synagogue, il va dire à cet esprit de sortir. Et il a chassé, l'homme était libre. Et puis le temps, quel temps s'agit-il? J'ai mis ça là-bas. C'est le temps de la fin. Quand Jésus arrive et quand il est né, parce qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, Satan le savait. Hérode apprend à travers les mages qui sont venus à Jérusalem, il cherchait un roi qui vient de naître. Hérode n'était pas content du tout. Un roi qui vient prendre ma place, pas du tout. Je n'étais pas venu pour prendre la place d'Hérode. Son royaume n'est pas de cette terre. Hérode n'avait rien compris. Alors dans sa stratégie, il veut tuer tous les enfants, croyant que parmi les enfants qui vont mourir, Jésus sera inclus. Mais ce n'est pas que tuer les enfants, c'est qu'il voulait arrêter l'œuvre du Seigneur. Détruire celui qui va apporter la libération. Les enfants sont morts. Quand Jésus est né, Satan savait que cet homme qui arrive, c'est fini. Il va nous tourmenter. Et c'est ici, quand Jésus commence son ministère, qu'ils vont dire, le temps est là. Il est venu, le temps de la fin a commencé depuis sa naissance. La fin commence déjà. Le compte à rebours a commencé quand Jésus est arrivé sur cette terre. Et les démons le savent que notre temps est fini. J'ai mis là-bas le diable et ses associés sont sensibles à la question du temps. Ils sont très sensibles. Qu'il faut faire vite parce que bientôt tout va s'arrêter. Jésus a dit une prophétie particulière dans Matthieu 24. Il dit ceci, le mal va grandissant. Chers amis, le mal va croître, l'amour va refroidir. C'est quoi le mal? Tout ce qui est contre la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à la vérité va croître dans beaucoup de domaines possibles. Et les démons savent que comme le temps avance vite, ils vont faire vite pour faire beaucoup de mal. Parce qu'il faut gagner le temps. En ce moment-là, que fait l'Église? Est-ce que nous sommes sensibles à ces facteurs temps? Est-ce qu'on est sensible que Jésus revient bientôt et que tout avance vite? L'Église parfois croise les bras. L'Église dort. Elle ne sait pas que la fin arrive et que le malin attaque. Mais l'Église dort. Le facteur temps n'est pas aussi fort dans l'Église. On n'en parle pas beaucoup. Mais sachez que les choses vont vite et que le diable travaille beaucoup plus vite que nous. Beaucoup plus vite. Et qu'est-ce que moi je fais? Si je fais que reporter à demain ce que je dois faire aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, j'ai oublié la notion du temps, que tout va s'arrêter. Jésus a dit cette parole-là. Travaillons pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne va travailler. Pendant que le jour, c'est maintenant que nous pouvons voir des choses et travailler pour le Seigneur. La nuit vient, on ne va plus travailler. Il faut faire vite. Nous devons gagner du temps. L'Église du Seigneur ne reste pas bras croisés. Il faut faire vite les choses. On nous a réveillés, on nous a allumés comme la lampe. Alors on doit être actif pour le Seigneur. Alors une réflexion un peu par rapport à ça. Regardez ce verset que j'ai dit, le mal grandira. Connaissez-vous le domaine où le mal est encore resté inactif? Vous connaissez le domaine où le mal est resté stable? Moi, je n'en connais pas. Dans tous les domaines, le mal grandit. À la maison, ça ne va pas. Dans les couples, ça ne va pas. À l'église, c'est compliqué. Partout, le mal ne fait que croître. Je ne sais pas si il dit ça d'ici la dernière fois. Il y a un pasteur où son fils va à l'école. Il arrive à l'école, il voit son ami. Ils étaient à la même classe. Et ils ont monté la même classe avec lui. Et son ami qui vient avec une jupe. C'est un garçon. Avec une jupe, avec une blouse. Il s'appelle Sophie. Il dit, mais l'enfant rentre à la maison, il dit, papa, j'ai vu mon ami, il est devenu une fille. Mais c'est un garçon, mais il porte une jupe. Et il s'appelle Sophie. Il dit, mais je ne comprends pas. Et l'enfant est fier et content parce qu'il s'appelle Sophie. Oh, c'était un garçon. Le mal grandit. Grandit tellement dans tous les domaines possibles. Que doit faire l'Église? Que doit faire l'Église? Paul va dire dans la prophétie, dans la fin des temps, le mal sera bien, le bien sera mal. On va changer les choses. Et c'est maintenant que l'Église doit se réveiller. Le mal devient bien aujourd'hui. Ce qui était mauvais à l'époque est devenu mal aujourd'hui. C'est pour cela que l'Église soit réveillée par le Saint-Esprit nous éclairer. Ce que tu vois bien aujourd'hui, attention, depuis que c'est mal. Des petites choses que tu vois, mais oui, ça va, c'est pas grave. L'Esprit va t'éclairer, va te dire, écoutez, là c'est mal, là c'est mauvais. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il va te dire exactement ce qui est mal et ce qui est bien. Le mal va croître. C'est une réflexion dans Jimmy Salaba, l'eschatologie, c'est à la fin des temps. Le mal est là. Ne laissons pas le mal croître en nous, ni croître en l'Église. Il faut stopper le mal d'une façon ou d'une autre. Mais souvent l'Église laisse le mal croître. Quelqu'un me dit, pasteur, j'aime une fille. Mais cette fille-là, elle n'est pas chrétienne. Mais je pense qu'avec le temps, je veux l'aider à se convertir. J'ai dit, force route et casse ses projets. Qui amène quelqu'un à la conversion? Qui change le cœur de quelqu'un? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos théories. Ce n'est pas notre intégrité. C'est Christ qui allume la lampe, ce n'est pas nous. Il dit, mais non, mais cette fille est formidable, nous avons les mêmes choses qu'avec elle, elle a les mêmes projets que moi aussi, elle est très gentille d'écouter, ça c'est une fausse idée, arrête ça, alors il la fouille. Je pense qu'il va se marier avec cette fille-là, il tient à cette fille. Il va dire que lui, il va le convertir, quelle bêtise. Qui a le pouvoir de changer le cœur de l'homme? Pour lui, la joie, c'est d'avoir une femme. Mais il a oublié le royaume des cieux. Le mariage est terrestre, non? Le mariage n'est jamais céleste. Ça va s'arrêter ici. Ta plus belle femme, oui, tu l'aimes bien, mais quand à la fin des temps, tu vas la laisser, c'est fini ici, le mariage au ciel, on ne dira pas, ah oui, là-bas, elle était ma femme. Non. Au ciel, il n'y a pas de femmes là-bas, hommes et femmes là-bas, c'est fini. Je me disais, mais si au ciel, il y a encore des soirs de femmes là-bas et des hommes, ça allait chauffer au ciel. Heureusement que Dieu a mis ça, ça reste sur cette terre. Ici, elle était ta femme, là-bas, c'est fini, c'est ta sœur. Mais ce frère, il dit qu'il va prendre cette femme parce qu'il va l'aider à se convertir. Je parle aux célibataires, n'ose pas. Là, je suis strict, n'ose pas. N'ose pas, on dit que toi, tu es trop strict avec ces choses-là. Je dis, oui, c'est la vérité. N'ose pas prendre une païenne, n'ose pas prendre un païen. N'ose pas, c'est pas juste, n'ose pas. Tu ne vas pas la convertir, elle va te convertir. Elle va te tirer vers le bas. Elle va te tourmenter. N'ose pas avoir cette relation avec une telle personne. On va faire vite. Maintenant, regardons le premier point, l'adversité. L'adversaire de Dieu est notre adversaire. N'oubliez pas, l'adversaire de Dieu est ton adversaire. L'ennemi de Jésus est ton ennemi. Nous partageons avec Jésus le même adversaire. Si Jésus l'appelle ennemi, il est notre ennemi. Il n'y a pas de compromis avec lui. Satan est notre adversaire. Il s'oppose à notre Père, il s'oppose à Jésus-Christ et puis il s'oppose à nous. Tout commence par Genèse chapitre 3, verset 15. Tout commence par là, ce verset-là. Vous regardez ce verset, j'ai mis en gras, en rouge. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Je susciterai l'hostilité. Chers amis, ce verset est formidable de Genèse 3. Dieu va susciter la colère. Au début, à Satan, le serpent est venu voir Ève. Écoutez, est-ce que Dieu a dit, en mangeant ces fruits, vous allez mourir? Et Ève va répondre de sa façon, vous connaissez l'histoire. C'est comme s'il y avait comme une relation, une complicité. Elle a écouté la voix de l'ennemi. C'était la phase, la première phase. Mais deuxième phase, quand Dieu va parler maintenant pour mettre les conséquences en place, il va commencer par dire, je vais susciter l'hostilité. Il y aura la haine, il y aura la colère entre la descendance de la femme et celle du serpent. Cette colère que le Christ doit avoir contre les œuvres de ténèbres vient de Genèse 3. Il y a en nous, dans la vie du chrétien, la haine contre les forces des ténèbres. Dieu a mis ça en nous. Il a suscité en nous cette position de haïr les forces du mal. Si le chrétien accepte le mal, il sort de la pensée du Père. Dieu a suscité l'hostilité au fond de nos cœurs. On ne peut pas accepter les choses du mal. On ne peut pas accepter les forces des ténèbres. Mais si nous arrivons à accepter ces choses comme ça, accepter la haine, la colère, le mépris, la médisance dans notre vie, c'est nous qui le voulons. C'est étonnant que les chrétiens se critiquent entre eux. Ils acceptent la haine à l'église, les mépris des autres frères et sœurs. Ils ont oublié qu'il y a en nous l'hostilité contre le mal, ne pas contre le frère. Il y a en toi, qui est la lumière du Seigneur, l'hostilité que Dieu a mis en toi pour s'opposer aux œuvres de ténèbres. Dieu l'a suscité en nous. Il faut l'apprendre. Le chrétien n'est pas une personne qui est dans le laxisme, laisser les choses se faire. Le mal continue. Non, on ne peut pas continuer. On doit arrêter le mal. Parce qu'au fond de nous, on nous a mis ça au fond de nous. À la conversion, je dis que la conversion, c'est un miracle. Dieu met des choses, Dieu met en nous beaucoup de choses. Comme une des choses, c'est ça, l'hostilité. La haine du mal. La haine des œuvres des ténèbres. Il a mis ça en nous. La question que je me pose maintenant, est-ce que l'Église est consciente de cette réalité? Est-ce qu'on est conscient, l'Église, de ce qui se passe? Est-ce que nous sommes conscients? Quand l'Église tourne dans des divisions, dans la haine, est-ce qu'on sait qu'en nous, il y a l'hostilité contre le mal? Comment elle se comporte, l'Église? Comment elle se comporte? Comment moi je me comporte face au mal, face à l'ennemi? Comment? L'adversaire de notre Père est aussi mon adversaire. Je ne peux pas le laisser continuer. Je ne peux pas. Parce que ses œuvres, nous sommes appelés à les détruire. On ne va pas fermer les yeux devant ce que le mal veut faire. Il faut le dévoiler et le détruire aussi. Il y a cette parole, Jésus va dire, à cause de mon nom et de ma parole. Il y a une série de versets que j'ai mis là, Matthieu 24, 9, Luc 21, 17 et Jean 15, 21. Et tous ces versets, ils ont deux choses en commun, mon nom et ma parole. Jésus dit, à cause de mon nom, le nom que vous avez reçu de moi, vous avez cru en moi, et à cause de ma parole que vous avez reçue en vous, cette parole, vous serez persécutés, haïs et repoussés des autres. Dans sa prière, Jésus va prier dans Jean chapitre 17, « Je leur ai donné ta parole, ils l'ont reçue, et maintenant le monde les a haïs. » Quand nous recevons la parole de Dieu, le monde va nous haïr. C'est quoi le monde haï quand nous recevons la parole de Dieu? Quand nous la méditons, quand nous l'appliquons, le monde va nous haïr. Quand il lit la Bible, sans l'appliquer, le monde ne va pas te haïr. La connaissance ne nous amène pas à la haine du monde, non. La connaissance ne fait pas trembler Satan, pas du tout. La connaissance ne fait pas trembler les démons, pas du tout. Mais quand la parole de Dieu, quand je la reçois, j'ai la connaissance, quand je commence à l'appliquer, les démons s'élèvent contre toi. Le monde va te haïr quand tu vas commencer à appliquer la parole de Dieu. Il va s'opposer à toi. Parce que tu vis des choses nouvelles à cause de mon nom. Jésus dit, parce que vous allez me recevoir dans votre vie, vous serez haïs. Parce que vous allez éclairer les pièces et les endroits qui sont dans les ténèbres. Nous portons tous le nom du Seigneur. Jésus-Christ habite en nous. Et Satan nous cherche, il nous cible. Il ne nous aime pas. Et il ne t'aime pas. Il veut te détruire. Mais une chose qui est là, le Christ est là. Le Christ est présent. Et c'est lui qui nous garde. Et c'est ce qui fait de toute notre joie. J'aime cette parole de Marthe et Marie. Et Marthe va dire au Seigneur, quand il est arrivé à Béthanie, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, tu allais stopper la maladie. Mais il est déjà mort. Marthe avait une vision un peu courte par rapport à la résurrection. Jésus va l'expliquer. Après, il dit, écoutez, je suis la résurrection. Je suis la vie. Ton frère vivra. Même si Marthe pense à la résurrection au dernier jour. Mais maintenant, ton frère va ressusciter. Je suis la résurrection. Si Jésus n'était pas venu sur cette terre, on serait des malheureux. Heureusement qu'il est venu. Heureusement qu'il est venu, le Seigneur. C'est ma plus grande joie d'avoir un Dieu qui nous sauve. Jésus est merveilleux. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne. Je prépare le séminaire. Et ce n'était pas facile, chers amis. Beaucoup qu'on aborde le point du monde des ténèbres. Et ce monde s'élève contre moi. J'ai connu une personne. Je la connais vraiment. Elle est dans nos églises. Je ne dirais pas dans quelle église. Mais elle n'est pas des nôtres. Pour la première fois, il dit au Seigneur, je vais voir les églises. Montre-moi les églises. Comme tu as montré à Jean l'Apocalypse de cette église. Montre-moi les églises. Montre-moi, Seigneur, et qui est derrière ces églises-là? Montre-moi! Alors, il m'a montré une personne que j'apprécie. Je l'ai vue, et elle sort devant moi. Elle me regarde en face, tout d'un coup, l'endroit où elle était, c'est comme une mer, comme de l'eau, comme l'océan si grand. Elle se met debout, et puis elle se met couchée. Elle ne plonge pas, elle est au-dessus, elle descend, et puis elle ressort. Elle est en train de rigoler. Elle me regarde en face et dit, je ne suis pas de vôtre. Je dis, mais je te connais. Tu es de l'église. Je ne suis pas des vôtres. Elle entrait, elle sortait, elle rigolait tellement. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors j'entends le Seigneur qui me dit, regarde une des personnes que tu crois être des vôtres, mais elle n'est pas des vôtres. Je ne vous dis pas, s'il est une sœur, un frère, je ne vous dis pas. Mais ça m'a bouleversé, ça m'a fait mal. Voir comment elle fait. Elle est dans le monde des ténèbres. Elle entre, elle sort. Elle entre, elle sort. Elle avait des habits tout noirs. Et à la fin de la vision, j'ai pensé, mais que dois-je faire? Est-ce que pourrais-je lui parler, lui expliquer l'évangile? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Mon cœur est triste. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas s'il va la sauver, je ne sais pas. Mais je regrette. Je regrette. Sois des nôtres. Amen. Frères, sœurs, sois des nôtres. Sois des nôtres. On continue. Le diable et son organisation. Comment il est organisé? C'est le verset que notre frère Michael nous a donné à lire. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de la chair et le sang. Tu ne vas pas t'opposer aux frères, non. Satan nous pousse à nous opposer aux frères et sœurs, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le bon combat. Le combat, c'est quoi? Nous luttons contre les puissances. Regardez bien, il y a les puissances, il y a des autorités, il y a des pouvoirs de ce monde des ténèbres, il y a des esprits du mal. Satan est organisé. Il y a des puissances, il y en a vraiment. Il y a des forces de ténèbres, il y en a vraiment. Il y a des autorités dans ce monde-là, et qui sont terribles, qui peuvent te tuer, qui peuvent te faire du mal. Et Satan a eu toute une armée qui peut se mettre en marche contre toi. Il est organisé, très organisé. Et l'apôtre Paul, on lui a révélé cela, regarde tout ce qu'il y a comme puissance, comme mystère de ces choses-là, mais nous, les chrétiens, on ne lutte pas contre les chrétiens, contre la chair et le sang, mais contre ces forces-là. Mais comment lutter avec eux? Si ce n'est que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur, lui qui nous aime. Cela est caché à nos yeux. On ne voit pas ces choses-là. C'est caché à nos yeux. Mais Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir. je serai plus clair. Dans mon pays, j'ai un pasteur qui est maintenant en France, ici. Cet homme a le don de discerner les esprits. Et ses yeux nous voient, nous. Parfois, Dieu nous ouvre les yeux pour voir les anges et voir les démons aussi. Il y avait une délivrance qu'on a faite dans notre église à l'époque. Après la délivrance, ces démons étaient embêtés, ils ne sortaient pas. Et quand ce pasteur est arrivé, à l'époque, il était comme tout frais, il arrive. Et on dit, mais ces démons sont résistants, ils ne sortent pas. Quand il est arrivé, ces démons commençaient à parler. Toi, je te connais, tu me vois. Et il le voyait. À l'intérieur de cette dame-là, ces démons étaient assis sur une chaise. Il dit, tu sors ici. Il le chasse au nom de Jésus, ces démons sortent. Or, il y avait beaucoup qui sont partis avec lui. La prière est terminée, et puis on est parti. Quand nous sommes sortis de la salle, la cour était grande, on prenait la route, le chemin vers la porte de l'enclos de la parcelle de l'église. Et pendant qu'on marchait, nous on marchait, on ne voyait pas. Mais lui, pendant qu'on marchait, lui il voyait ces démons qui nous suivaient. Et il parlait à lui, lui il nous entend. Il lui dit, pourquoi tu nous as fait sortir? Ce n'était pas ton problème à toi. Pourquoi tu nous as brisé notre vie avec cette femme-là? Il fallait nous laisser là-bas. Tout d'un coup, le frère s'arrête. C'est tout, il dit, continuez à nous suivre. Et vous verrez ce qui va se passer pour vous. Et nous, on comprenait, mais tu parles à qui? Il dit, je parle à ces démons-là. Et nous, on continuait. Et ils nous suivaient. Et nous, on ne savait pas. Ils s'arrêtent et tout, ils disent, si vous arrivez au niveau de cette porte ici, vous verrez. Quel spectacle. Alors, ils ont dit, on vous suivra la nuit. Bon, on est parti. La nuit, une de nos sœurs qui était avec dans la prière, les démons viennent chez elle. C'était la nuit. Elle sentait, elle était tourmentée, une attaque terrible. Elle entend la voix qui dit, on avait promis qu'on viendra, nous sommes là, on va te détruire. La sœur se réveille, elle proclame le sang de Jésus qui va la couvrir. Tout d'un coup, elle voit comme une muraille qui tourne autour d'elle, tout est rouge du sang de Jésus. Elle était protégée. Le matin, elle était réveillée en forme. Chers amis, ce monde existe, ne vous trompez pas. J'ai dit que je dirais des choses pratiques aujourd'hui. Je vous dis des choses clairement, ce que je vis. Ce monde existe réellement. Les démons se cachent, mais si Dieu le veut, tu peux le voir. Tu peux le voir. On dit toujours, oui, mais ce sont souvent les Africains qui voient que des démons. Ah, c'est faux. En France, c'est calme. Il y a pas de démons dans les églises, chez les Français, chez les... Non, c'est faux. Le diable s'adapte à des milieux. Dans ce milieu européen, il s'adapte différemment. Il fait chose différente, de calme. Or, la possession, en France, il y en a aussi des pires. Si on vous ouvre les yeux, vous allez voir. Un pasteur disait, oui, les églises africaines, là, on n'a que des livrances et des possédés. Chez nous, les Français, tout est OK. J'ai dit, ah bon? Chez nous, il n'y a pas de démons, les gens sont calmes, c'est paisible. Ah bon? C'est comme si Satan dit, les Français, je vous laisse tranquille. Les Africains, je vais vous chauffer. C'est pas ça. Vous voyez, les Chinois, restez tranquilles. Ce n'est pas ça du tout. Tous les peuples, ils s'adaptent à différents milieux. Si j'ai prié pour les gens, quelqu'un me disait, la personne qui était délivrée, français ou africain? J'ai dit, pourquoi cette question? Oui, mais c'est vous que les Africains, vous avez que des démons, nous, les Européens. On n'a pas ça. J'ai dit, ah bon, tu verras un jour où ça va chauffer chez toi. Enlevez cette pensée qui n'est pas claire, qui n'est pas juste. Le mal attaque partout. Il attaque partout. Il menace les enfants de Dieu. À la fin de ce temps, je vais prier pour vous, à la fin de ce séminaire. Je vais demander à Dieu que Dieu vous ouvre les yeux. Qu'il vous rende sensible à ces choses-là. Ça sera votre tour de voir ces choses-là. Ça sera bien. Amen. Vous êtes prêts? Que Dieu vous ouvre les yeux et vous rende sensible à sa pensée. Et si notre évangile est voilé comme dit l'apôtre Paul, il n'est pas voilé pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Les dieux de ce monde a aveuglé leur esprit. Les dieux de ce monde. Satan règne dans ce monde ici. Il empêche les gens de croire. Un frère priait pour son frère, son grand frère, qui ne croyait pas. La pensée de Dieu lui a dit de prier pour l'esprit d'incrédulité. Il était aveuglé. Il priait pour ça régulièrement. Un jour, les voix sont tombées. Il était étonné. Son frère dit, est-ce que tu peux me parler un peu de ton Dieu là? Hein? C'est qui ce Jésus là? Il a compris que l'esprit du mal est parti. Il a donné sa vie au Seigneur. Satan est le Dieu de ce monde qui veut aveugler les gens. Mais le Seigneur nous ouvre les yeux par sa grâce. La parole de Dieu nous ouvre les yeux et nous éclaire réellement. L'aveuglement spirituel, l'Église, on doit faire attention à ça. Il y a des gens qui ne voient pas. Ils sont aveuglés. Prions pour que les gens voient. Qu'ils comprennent. Voir, c'est comprendre la parole. C'est comprendre l'Évangile. On doit prier pour eux. Attention à l'Église. Je reviens maintenant à ce que j'ai dit la dernière fois. Nous devons passer un temps de dire ce qu'on a vécu quand on était encore païen. On doit le dire. On m'a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Mais souvent, c'est que si quelqu'un a vécu dans les choses horribles, il a touché à des choses maléfiques, mauvaises. Et quand il est converti, Jésus entre en lui, mais ces choses sont là. Il faut les faire sortir, non? Du coup, une telle personne, quand vous priez pour elle, il y aura des manifestations parce qu'il y a encore des forces du mal. Il faut que ces choses puissent sortir pour qu'elles soient complètement bénies. Donc, trouvez un temps de parler avec votre pasteur, je ne sais pas qui, un frère, discuter de ce qui s'est passé dans votre vie passée. Il y a aussi des conséquences dans la vie nouvelle aussi. Mais vous en parlez clairement et vous serez libérés. Car le Seigneur veut cela pour notre bénédiction. Il veut nous libérer de ça. On doit faire attention que l'Église ait des yeux ouverts. Ne soyons pas aveugles, qu'on doit voir clairement les choses. L'aveuglement n'est pas du Seigneur. C'est l'œuvre de l'ennemi qui veut que nous ne puissions pas voir. Et là, il veut nous faire du mal. Mais on doit voir par la grâce du Seigneur. Amen. La question se pose, est-ce que moi je vois? Est-ce que je vois? Et je comprends les choses. Le Christ veut nous aider. Troisième chose, j'avais dit qu'on ira vite. Troisième chose maintenant, l'ennemi dévoilé, gloire à Jésus-Christ. L'ennemi est dévoilé. On vous a remis la feuille là, tous les thèmes sont dedans. Je remercie mon frère Michael qui a fait ça pour nous tous. L'ennemi dévoilé et gloire à Jésus-Christ. Chers amis, ma plus grande joie, c'est que le Christ est venu sur cette terre, il a dévoilé les œuvres de Satan. Il a dévoilé tout ce qu'il fait en secret. Avec Jésus, tout est dévoilé. Avec lui, rien n'est caché. Tu peux tromper les gens, tu ne pourras pas tromper Jésus-Christ. Tu peux te cacher dans l'église, mais tu ne vas pas tromper Jésus. Et le Christ qui va dévoiler des choses, il va en parler à ses enfants. J'ai béni Jésus pour ce qu'il dévoile les choses cachées. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est bon. J'ai béni Dieu. Je ne vois pas les démons partout, mais je sais parfois par la grâce du Seigneur, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Et ça, c'est l'ennemi qui vient entrer par là. Qu'il fasse grâce à son peuple. Regardons ce verset qui va s'afficher. Allez, je réponds. Ah, le verset n'apparaît pas. Vous savez, dans ce verset que quand Pierre a pu voir Ananias. Saphir et Ananias, ils ont vendu le terrain. Ils ont copié Barnabas. Le terrain est vendu. Les deux dans leur coin, ils font leur complot. Pierre n'était pas là. Vous savez ce qui s'est passé? Ananias, le frère, arrive devant Pierre. Voilà l'argent sur lequel on a vendu le terrain. Qu'est-ce que Pierre va lui dire? Est-ce à ces prix que vous avez vendu ce terrain? Pourquoi tu as laissé Satan envahir ton cœur? Pourquoi? Pierre a pu voir la tromperie, le mensonge d'Ananias. Si c'était nous aujourd'hui, quelqu'un arrive ici, il apporte de l'argent pour la dîme. On sera content, non? Ah oui, merci frère, tu as de l'argent. Quelqu'un nous apporte de l'argent qu'il a venu à sa maison. Merci frère. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait en lui. On ne sait pas, on prend l'argent. Mais Pierre a vu au-delà de l'argent les réalités, qu'est-ce qui s'est passé réellement. tu y as trompé. Ce n'est pas la vérité. Jésus dévoile derrière les choses qu'on fait. C'est comme si nous te donnons l'offrande à l'église, mais derrière l'offrande, il y a ta colère, il y a ta haine. Jésus peut le dévoiler. Vous savez, c'était dans les synagogues. Les gens donnaient l'offrande. Jésus était là avec les disciples. Jésus regardait, les disciples étaient contents de voir que l'offrande est donnée dans la synagogue. Mais Jésus a vu au-delà de l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire? Cette femme-là qui a donné 2 deniers, c'était l'essentiel pour sa vie. Elle a donné plus que les autres. Mais les autres qui ont donné beaucoup plus, c'était sur l'orgueil. Jésus a vu derrière l'offrande l'orgueil humain. Or, si nous aujourd'hui, à l'église, quelqu'un donne 2 euros, on dirait, c'est petit ça. Quelqu'un donne un chèque de 5 000 euros. Oh, frère, tu es béni. Mais on ne sait pas derrière les 5 000 euros. Est-ce qu'il veut se montrer que moi j'ai l'argent? Moi je suis porté l'église. L'autre qui n'a que 2 euros, c'est tout son cœur qu'il a donné. On ne voit pas. Mais Jésus a vu derrière ça. Jésus dévoile ce qui est caché. Il dévoile ça. Quelqu'un m'amène sa fiancée. Il dit, parce que j'ai trouvé quelqu'un, viens marier avec lui. Je dis, oh, ça va, viens, on va prier pour ta fiancée. Il était très content, on arrive. Et j'étais là avec lui, on discutait. Dès que je le regardais, oh, quelle fiancée ça. Elle trompe. On me disait, mensonge, mensonge, mensonge. Je dis, mais Seigneur, c'est la femme du frère, c'est sa fiancée. Pourquoi cette pensée du mensonge? Alors, ils arrivent, on s'assoit. Je la regarde, quand je la regarde de mon cœur, mensonge, menteur, menteur. Je dis, mais oh là là. Alors après, on a parlé avec le frère, il m'a dit, elle est chrétienne, elle est engagée, et je l'aime beaucoup. Je dis, oui frère, c'est très bien. Je dis, mais laisse-moi avec elle un moment. Le frère se retire un peu, moi je reste avec elle. Je lui pose 2 questions. Ses réponses étaient un peu bizarres, étaient un peu ambiguës. Elle ne répondait pas clairement. Ce n'était pas la police, ce n'était pas l'interrogatoire. 2 questions, elle répondit bizarrement. Je dis, mais pourquoi tu ne réponds pas avec fermeté? Bon, c'est vrai, je ne te connais pas, c'est la première fois, j'ai peur. Je dis, mais je ne suis pas un policier, je suis un frère. Mais pendant qu'elle répondait, elle me disait, elle ment, elle ment, elle ment. Ce n'est pas la femme qui va prendre quitter avec mon serviteur. À la fin, j'ai dit à son mari, frère, viens. Bon, je te remets ta fiancée. Mais sache qu'après, quand la sœur est partie, lui est venu, j'ai dit, pourquoi tu l'as choisie? Pourquoi tu as pris ce chemin? Elle a dit, oui, mais elle est engagée à l'église. Hein? Elle sert bien. C'est elle. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ce choix? Elle a dit, mais pasteur, mais je l'aime. J'ai dit, ok. Ils sont partis. Chers amis, 3 mois après, cette femme commence à faire voir sa face réelle. Qui est-elle? Même pas encore mariée. Elle dit des choses horribles. Elle fait des choses bizarres. Cet homme m'a dit, Père, si cette femme est la femme de ma vie, montre-moi qui est-elle. La nuit, cette femme est venue chez le frère, passer un temps de prière avec elle. Et puis, quand ils ont prié ensemble, cette femme est partie. La nuit, sa voiture, qui était garée dans le parking, il n'y avait rien autour qui peut écraser sa voiture. Rien autour. C'était bien garé. Il vient le matin, sa voiture est abîmée. Cabossée de tous côtés. Il arrive, il dit, mais qui a fait ça? De tous côtés, on a du coup passé par le pare-brise devant et brisé. Il veut porter plainte. Il va demander qu'on voit, parce que dans la vidéo du parking, il n'y avait rien. Il dit, monsieur, mais ta voiture est là, il n'y a rien. Il dit, mais regardez la voiture. C'était bizarre. Après, quand il prie, il dit, mais c'est quoi? Ça dit, c'est ta femme. C'est celle que tu vas prendre. Oh, il a versé de l'argent de d'autres déjà à l'avance. Il a tout versé. À la belle famille, chez nous africains, c'est comme ça. Il faut donner de l'argent. Il va voir la belle famille d'écouter, je ne veux plus. L'argent, gardez ça pour vous. Je ne veux plus. Mais c'était la belle femme qu'il avait. S'il avait pris un mariage, ça allait chauffer. Elle ne te marie pas par rapport à la jupe qu'elle porte, la blouse qu'elle porte, les beaux cheveux, les beaux yeux, ce n'est pas le point pour se marier. Les beaux cheveux et les beaux yeux sont trompeurs. Elle a des beaux yeux, hein? Elle a des beaux cheveux. Quand elle marche, c'est sympa, hein, oui? quand elle la voit, mon cœur bouillonne dedans. Hein. Mais qui est-elle? Jésus est venu dévoiler les œuvres des ténèbres. Merci Seigneur qu'il est venu. Je suis content. J'ai dit au frère, après il m'a dit, pourquoi tu n'as pas dit qu'il était bizarre? Il dit, mais si je t'avais dit ça avant, tu n'étais pas content du tout. Il fallait qu'il te voie ça toi-même. Parce que c'est ta fiancée, tu l'avais choisie. Et non, tu es venu me voir. Il n'est pas de la France, il vient de l'étranger. Et c'est un frère que je connais longtemps. Il dit, je vais te monter, ma bien-aimée, je vais y prendre maintenant. Je viens te voir à Paris. Il dit, oh, viens. Il arrive, c'était vers 20, il arrive à Paris. Tout le monde qui vient chez moi avant d'aller à l'hôtel. Je dis, mais frère, d'abord, c'est bizarre, tu es encore fiancé. Il dit, va t'es avec la même chambre. C'est pas juste ça. Il dit, mais pasteur, mais je peux payer deux chambres, c'est compliqué. Je dis, bon, ok, bon, viens. Ils arrivent, les deux avaient sa fiancée, une jeune fille, très très sympa, gentille, qui rigole pour n'importe quoi. Il la regarde et dit, pasteur, voilà, j'aime ses frères. Je l'aime bien. Il dit, ok, c'est très bien. Quand je la regarde simplement pendant qu'on discutait, on échangeait, mais elle n'était pas bien dans sa clarté. Au fond de mon cœur, dis à cette dame, dis-lui que je ne suis pas dans cette union. J'ai dit, frère, comment tu as trouvé cette dame? Oh oui, mais j'avais une conviction, c'est elle. Ah! Et tu veux le prendre comme épouse? Dis oui, pasteur, j'ai fait tout ce voyage pour te montrer, non? Parce que c'est ma femme. Là, j'ai parlé clairement. Ça ne marchera pas. Les deux m'ont regardé bizarrement, t'es pas gentil. J'ai dit, mais ça ne marchera pas. C'est pas bon. Je n'ai pas dit ça, mais ce jour-là, Dieu m'a dit ça clairement. Ça ne marchera pas. Ils sont partis fâchés. Et depuis ce jour-là, ces gens, ces frères, ne voulaient plus m'appeler. Il est resté 5-6 mois après, il m'appelle. Parce que j'ai été parlé. Je dis, bon, ah, ça fait longtemps, il n'y a pas de nouvelles. Elle est déjà partie. Elle dit quoi? Elle est partie. Elle avait une double vie. Ah bon? J'ai compris que ça ne marchera pas. Et ça n'a pas marché. Frères et sœurs, ne me fouillez pas quand je vous regarde. Hein. Mais le Seigneur, Jésus, dévoile les choses. Jésus dévoile les choses, frère. Jésus dévoile les choses. C'est ça que je suis content. Parce qu'il dévoile les choses. Et tu ne peux pas tromper l'Église. Tu ne peux pas. Si tu veux être un soldat, sois prêt à écouter la vérité. Prêt à écouter la vérité. Christ dit ceci dans Jean, chapitre 10, verset 10. Satan, il vient qui pour voler, détruire et tuer. Les voleurs. Satan vient voler quoi? Tuer quoi? Détruire quoi dans la vie des gens? C'est ça son œuvre. Jésus va dévoiler ça. Il est le dominateur de ce monde. Il veut dominer. Il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Il s'appelle le tentateur. Il vole, il détruit, il tue. Il a tué Jacques, le frère de Jean. Juste au début, l'église commence. Hérode a tout fait pour arrêter les apôtres. Il a tué Jacques. Il voulait tuer Pierre, mais Dieu, Jésus-Christ, a arrêté ça. Satan peut tuer ce corps, mais il ne pourra pas tuer l'âme. Satan peut t'attaquer, mais il ne va pas te vaincre. Il vole aussi. Il tue aussi. Il domine dans ce monde ici. Il domine. Il ment, c'est père des mensonges. Il est le tentateur qui nous pousse à la tentation, à tomber dans le péché. Voilà ce qu'il est. Jésus a dévoilé ça. Vous ne verrez pas ça dans l'Ancien Testament. Ça sort de la bouche de Christ. Jésus qui a dit, voilà ce qu'il est. Tentateur, dominateur, voleur, destructeur. Ce qui est génial, c'est Christ qui l'a dit. Même s'il y a des traces de ces choses dans l'Ancien Testament, mais tout est dévoilé par Jésus qui l'a dit ça lui-même. Il définit celui qui est contre nous. Il est dominateur, il est tentateur. Prenons Jean, chapitre 14, verset 30. Prenons ce verset, on va le lire avant qu'on termine cette première partie. Jean 14, 30. prenons vite nos Bibles. Quelqu'un peut lire une verset, peut nous dire ces versets-là rapidement. Jean 14 et 30. Merci. Le prince de ce monde, le dominateur, vient. Il n'a rien à moi. Prenez cette phrase-là. Il n'a rien à moi. Ça veut dire quoi? Satan est dominateur, mais je n'ai rien avec lui. Nous sommes séparés. Frère, Satan est dominateur. Il domine. Qui n'est rien entre nous et lui? Qui n'est rien entre toi et lui? Qui n'est rien? Ne touche pas à ce qui lui appartient. Ne touche pas. Ne prends pas ce qui lui appartient. Car il n'a rien entre nous et lui. Ne prends pas ce qui lui appartient. Jésus dit, il n'a rien à moi, entre lui et moi, il n'y a rien. Même s'il domine ce monde, il domine les autres, mais pas sur moi. Satan domine ce monde, mais il ne domine pas sur l'Église. Amen. Il ne domine pas sur toi. Il domine ce monde, mais pas sur toi. Il domine ce monde, mais pas sur toi. Je n'ai pas voulu mettre Dieu en épreuve. J'allais prendre mon épouse au travail, mais j'avais complètement oublié qu'il fallait que j'achète du carburant. Je suis parti. Et la pensée qui était, c'est comme le malin pour le malin, que si je vais en cours de route là-bas, prendre d'essence, alors on sera bloqué en cours de route. Je dis, mais j'ai oublié. Et pourquoi ne suis pas entré par là? L'espace entre le travail de mon épouse et la station de V avant, c'est loin, il n'y a rien comme station d'essence là-bas. Alors j'ai continué à rouler. Je me dis, oh, ça va s'arrêter en cours de route. Dans la voiture, ça marque juste 10 km qui restent. Oh, là où il travaille, c'est 15 km. Je dis, mais quelle bêtise que j'ai fait. Si je rentre pour chercher là où il faut trouver le carburant, elle finit, c'était tard la nuit, déjà 22 heures. Une pensée claire, vas-y, allez-y. J'ai dit, mais 10 km, ça ne tient pas. Dieu a stoppé dans 10 km et je connais à rouler. 10, ça ne bougeait pas. 10, ça ne bougeait pas. J'arrive au travail, toujours 10 km. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Si je dis à mon épouse que là, il n'y a que 10 km, elle dit, mais c'est quoi ça? Alors ça va chauffer. J'ai dit, je n'en parlais pas. J'ai fait comme Abraham qui n'a pas dit à Sarah, on va amener l'enfant au sacrifice. J'ai fermé la bouche et je continuais. J'ai dit, oh, viens, je vais te prendre. Oui, on est parti. Et quand on rentrait, je regardais 10, et ça ne bougeait pas. J'ai dit, merci Seigneur. Et j'ai foncé, 10, ça ne bougeait pas du tout. Dans mon cœur montait un cantique. Et je chantais au fond de mon cœur ce chant. Un chant de louange, je montais à Dieu. Jésus, tu es génial Seigneur, tu es formidable. Et j'ai roulé 10. Et quand on est arrivé juste au niveau du parking, zéro. On est entré. Pouf. Alors j'ai dit à mon épouse, il y avait 10 km de carburant. Et aller comme retour. Elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas acheté les carburants? J'ai dit, mais si je t'avais, ça allait chauffer. Donc on est arrivé à la maison, merci Seigneur. J'ai béni Dieu. Jésus est vivant. Et ça m'a poussé à l'adorer lui. Jésus, tu as bloqué le compteur de carburant. Je me souviens de la veuve de Sarepta où la farine, lui, ne manquait pas. Jésus n'a pas changé. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu? Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Mais qu'il n'y ait rien entre toi et les dominateurs. Qu'il n'y ait rien. Qu'est-ce que tu as qui appartient au dominateur? Je te pose la première question. Qu'est-ce que toi tu as en toi qui appartient au dominateur? Qu'est-ce que tu fais qui appartient au dominateur? Qu'est-ce que tu touches qui appartient au dominateur? C'est une telle chose, il faut l'arrêter. Qui n'est rien entre toi et lui? Qui n'est rien? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vis? Qui appartient à l'autre? Alors laisse ça tomber. Laisse tomber cela. Qui n'est rien entre toi et lui? Qui n'est rien? C'est une chose qui appartient à l'ennemi que tu as, que tu vis, que tu pratiques. Aujourd'hui, avant de quitter la salle d'ici, remets-toi au Seigneur. Si tu as besoin d'une prière, on est là, on va prier pour toi. Que Christ puisse t'aider. Qui n'est rien entre toi et l'ennemi? Qui n'est rien? Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour cette parole. Merci parce que tu es bon. Garde-nous à toi, qu'il n'y ait rien entre nous et l'ennemi. Il est dangereux, mais tu es plus puissant. Nous ne craignons pas. Fortifie-nous et rends-nous sensibles à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. C'est la pause. On reviendra pour quelques questions et puis on va prendre la deuxième partie. Les questions, vous les gardez. On va les poser avant de commencer la deuxième session. C'est la pause. Levons-nous, faisons un petit tour, on va revenir.